Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Quentin Vinet.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Du remous après le vote à l'Assemblée nationale du projet de loi d'urgence agricole. C'était hier dans la soirée, tension dans le bloc central, tension au sein du gouvernement, vous allez tout entendre. En attendant ce soir au Sénat, le vote et sans doute l'adoption définitive de ce texte. Un nouvel incendie, et on va en parler cette fois en Vendée. 2000 vacanciers évacués à un camping hier soir, on va vous raconter ce qui s'est passé. Et on sera aussi dans le journal en Haute-Savoie, d'où repartira le Tour de France aujourd'hui en pleine polémique sur les contrôles antidopage réalisés en pleine nuit durant le week-end.
Le projet de loi d'urgence agricole est désormais entre les mains des sénateurs.
Alors ce texte promis par le gouvernement et qui fait tant débat, hein, même entre les agriculteurs, on l'entend depuis ce matin sur RMC, il a donc été voté dans la soirée à l'Assemblée, 296 voix pour, 224 voix contre, au terme d'une soirée qui a été complètement électrique, puisque le gouvernement a ouvertement été critiqué par des députés du bloc central. C'est la question du stockage de l'eau et la réintroduction de deux pesticides, hein, qui est ouvertement contestée. Romain Cluzel, du service politique à RMC. La prochaine étape, c'est donc dès aujourd'hui, le vote au Sénat, et si vote il y a, le texte sera définitivement adopté.
Et ce vote des sénateurs, il ne fait aucun doute parce que de nombreuses mesures qui ont fait débat à l'Assemblée ont été introduites par le Sénat. C'est le cas par exemple de l'acétamipride, cet insecticide très controversé, défendu mordicus par le sénateur LR Laurent Duplomb. Les sénateurs sont également à l'origine de plusieurs mesures sur la gestion locale de l'eau et l'influence plus grande des agriculteurs sur cette gestion. Pour autant, même si les sénateurs valident ce texte, il devra passer par le filtre du Conseil constitutionnel. Plusieurs groupes de gauche ont déjà prévu de saisir l'instance. Et puis un conseiller ministériel s'inquiète déjà de la réaction de l'opinion publique avec le retour de l'acétamipride.
Oui, c'est le fameux insecticide qualifié de tueur d'abeilles qui provoque des remous au sein même du gouvernement. Je vous le disais, la ministre de la Transition écologique Monique Barbu y était opposée. Pas celle de l'agriculture Annie Genevard qui salue le vote des députés dans un message ce matin sur ses réseaux sociaux.
Alors est-ce que c'est une victoire pour les agriculteurs ou une catastrophe écologique? On en vous attend au 32-16 si vous êtes agriculteur. Notamment, vous venez témoigner. 32-16, le WhatsApp RMC 06 12 424 424. Ça tombe mal, hein, en plein été, les prix des carburants repartent et repartent fortement à la hausse.
Et c'est évidemment lié à la situation au Moyen-Orient où États-Unis et Iran ont à nouveau mené des frappes durant la nuit. Le gazole a pris 14 centimes en une semaine. Le sans-plomb lui a pris 9 centimes et repasse la barre symbolique des 2 euros le litre, hein, selon les chiffres du site internet carbu.com. Alors dans ce sens-là, la répercussion est immédiate à la pompe, avec des incidences sur la route des vacances, nous dit Tiffaine Dubuard.
Dans cette station d'autoroute, le prix du gasoil atteint même les 2,30 euros le litre, une hausse à laquelle ne s'attendait pas Alex, automobiliste.
Le prix est assez exorbitant quand même. On s'est dit, ça y est, ça redescend, ça va durer un petit moment, ça réaugmente et on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas jusqu'où ça va aller.
Les gros rouleurs doivent donc s'adapter, c'est le cas de Bénédicte, elle utilise quotidiennement sa voiture.
Tant pis, je vais faire des petits pleins plus fréquemment, dès que je me déplace en station-service, ça va être à 90 euros le plein, je peux pas... C'est pas possible.
Pour partir en vacances, cette responsable en ressources humaines avait prévu de parcourir 700 km. Mais avec l'augmentation du budget essence, elle n'exclut pas de chambouler toute son organisation.
Si on peut s'arranger pour emmener les enfants avant, ben on le fait en transport en commun, plutôt en train. Mais sinon, ça fait 2 allers-retours, c'est ingérable au niveau du prix.
Avec les prix actuels du gasoil, son aller-retour Paris-Toulouse pourrait ainsi lui coûter jusqu'à 250 euros.
Alors ça aussi, c'est le feuilleton de l'été rythmé par les incendies. Et hier soir, c'est le département de la Vendée sur la côte atlantique qui en a fait les frais. 2000 personnes donc évacuées d'un camping au Sable d'Olonne en raison d'un feu de végétation. Luc Allobert, vous avez des précisions?
Oui, le feu a démarré au bord d'une route départementale dans une zone de végétation très sèche et poussée par un vent fort. Il a progressé très vite en direction d'un grand camping 5 étoiles et la menace a été prise très au sérieux, explique le colonel Martin Boutier, directeur départemental adjoint des pompiers de Vendée.
Très rapidement, le camping a été sous les fumées, ce qui a nécessairement inquiété un petit peu la population qui se trouvait dans ce camping. Il y a 2200 personnes qui se trouvaient dans le camping. Nous avons décidé de l'évacuation des 2200 personnes du camping de manière préventive. Nous les avons dirigées vers une salle communale pour qu'ils puissent être en sécurité, donc à proximité du camping, le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers.
C'est grâce à l'intervention de plus de 120 pompiers à plusieurs largages, dont un avion Dash, que le feu a pu être fixé peu avant 22h hier soir. Les occupants du camping ont été autorisés à revenir sur place. Au total, 13 hectares ont été brûlés, mais heureusement, aucun dégât majeur, seulement de la végétation.
Alors, je précise qu'il y a 5 départements qui sont au niveau le plus élevé pour le risque d'incendie, des départements près de la Méditerranée, notamment le Var où le feu de Draguignan, qui a ravagé 200 hectares un dimanche, est désormais fixé depuis hier soir. Un autre feu ravage en ce moment la montagne dans les Hautes-Alpes, dans une zone escarpée au sud de Briançon. Un hameau a été évacué de façon préventive et 50 hectares de forêt ont déjà brûlé.
Et voici une autre conséquence des canicules à répétition. On manque de fruits de mer sur les étals.
Et pourquoi ? Parce que les températures de l'eau explosent avec les canicules. On parle de canicules marines jusqu'à 29 degrés pour la mer en Méditerranée. C'est bien plus que la normale. Le constat est le même sur la côte atlantique et dans la Manche. Comme ici dans la baie de Saint-Brieuc où les producteurs de moules disent déjà à notre correspondant Martin Lange, eh bien que leurs rendements sont divisés par 4 cet été.
Depuis plus d'un mois, Guillaume Hurtaud a débuté sa récolte sur les bouchots, ces puits en bois sur lesquels grandissent les moules, mais la production n'est pas au rendez-vous.
Il manque des moules en fait. Quand on pêche une branche de 100 mètres, et notre référence, sur une année normale, je fais 20 bacs de moules, là j'en fais 8 ou 9. Quand on les lave, en plus elles sont toutes petites.
Une situation inédite qui met en danger l'entreprise familiale.
Je fais en moyenne 200-250 tonnes. Cette année, je vais peut-être sortir 50-70 tonnes. On va tenir l'année, mais il faudrait que l'année prochaine soit une bonne année, et ça, on n'en sait strictement rien.
En cause notamment le plancton qui se raréfie, encore des prédateurs comme les araignées de mer qui arrivent de plus en plus tôt. Des bouleversements qui pourraient être liés à la hausse de la température de l'eau. Anthony Juin est le président du syndicat mythylicole de la baie.
La pompe là en ce moment à 24 degrés, donc on a bien 2-3 mois d'avance. Oui, forcément il y a un impact sur la façon de se nourrir, sur la nourriture elle-même pour la moule. Nous, quand il fait très chaud, on n'a pas envie de manger. Je pense qu'elles, c'est pareil. Elles ne vont pas grossir. Le tout additionné fait une saison catastrophique.
D'autres zones de production sont aussi touchées. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, l'AOP moule de Bouchot, qui représente 20% de la production française, n'a pas encore débuté sa saison, faute de moules suffisamment grosses.
C'est au bord du lac Léman que le Tour de France reprend aujourd'hui, au lendemain de la journée de repos. Ça repart avec un contre-la-montre de 26 km entre Évian et Thonon-les-Bains, avec une montée de 9 km pour commencer, puis une descente qui est décrite comme dangereuse. Un parcours qui convient normalement au prodige français Paul Sexas, à l'aise en contre-la-montre, et qui est ce matin à une trentaine de secondes du podium au classement général. Ça reprend donc sans le Danois Jonas Vingegaard, vous savez bien, qui a abandonné après une chute dimanche au niveau d'un rond-point. Chute qui fait beaucoup parler depuis, parce qu'il avait été réveillé la nuit précédant l'étape par un contrôle antidopage en pleine nuit. Pareil pour le maillot jaune Tadej Pogacar. L'agence qui mène les contrôles se justifie. Et alors elle explique, Clément Brossard pour RMC, que si elle mène des contrôles en pleine nuit, c'est pas pour rien, et surtout elle en a le droit.
Oui, un tel test n'est pas anodin, nous fait savoir l'Agence internationale du contrôle. Afin d'effectuer cette opération à une heure si tardive et la rendre légale, l'agence a dû la faire valider par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, juge qui ne donne son aval qu'en cas de risque de soupçon grave, de dopage imminent ou de disparition de preuves. Ce contrôle nocturne a surpris l'ensemble du peloton, un peloton inquiet de savoir qu'il peut être contrôlé en pleine nuit, perturbant ainsi son sommeil au cœur d'une compétition si énergivore qui a vu Jonas Vingegaard abandonné suite à une chute au lendemain de ce contrôle. Si la situation suscite forcément le doute, l'agence de contrôle internationale a expliqué à RMC hier soir qu'il ne fallait pas interpréter ce test comme l'assurance d'une violation des règles antidopage.
Bon, on vivra ça cet après-midi, ce contre-la-montre sur RMC dans l'intégral tour. Et ça, c'est l'image de la soirée. Vous allez forcément l'avoir passée aujourd'hui, celle de la foule monstrueuse hier soir à Madrid, en Espagne, pour le retour des champions du monde espagnols. Avec une parade, puis une cérémonie. Écoutez.
Nous sommes les champions du monde.
Vive le roi !
Vive le roi et vive l'Espagne !
Alors la presse, c'était Rodri, le milieu de terrain, meilleur joueur du tournoi que vous entendiez. La presse espagnole parle de 2 millions de personnes dans les rues de la capitale Madrid. C'est énorme pour Madrid qui compte 3,5 millions d'habitants, un peu plus de 6 millions si on comprend la banlieue. Ça fait une personne sur trois, grosso modo, qui assistait à cette cérémonie donc de sacre pour célébrer les champions du monde. En parallèle, je vous signale que la FIFA a ouvert une procédure disciplinaire sur les incidents qu'on a pu voir dimanche en fin de match après la finale, impliquant notamment l'Argentin Leandro Paredes, qui avait agressé deux joueurs espagnols après le coup de sifflet final.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC.